Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. On a complété avec le dernier message la semaine dernière que Jean-Luc nous a apporté l'étude des trois premiers chapitres dans lesquels Paul a traité de théologie, on peut dire, de doctrine chrétienne. Et il nous a rappelé, entre autres, que Dieu nous a bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Nous qui, par sa grâce, avons été rachetés par le sacrifice de Jésus-Christ. Il nous a aussi rappelé, dans le verset Éphésiens chapitre 2, verset 8, qu'on connaît tous très bien, que c'est par la grâce que nous avons été sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, ce n'est point par nos œuvres, afin que personne ne se glorifie. Aussi, on y a appris que cette grâce n'était pas exclusivement réservée au peuple juif, mais aussi elle s'adresse, et elle s'adressait aussi encore aujourd'hui à n'importe qui sur cette terre, qu'il soit juif, grec, qu'il soit russe, comme au temps de Paul, qu'il soit barbare, qu'il soit romain. Parce que le dessein de Dieu, son plan, son désir, c'est d'unir toute personne, peu importe son arrière-plan national ou religieux, traditionnel, autrement dit, unir, former un peuple qui lui appartienne, une communauté ayant une même foi, former un peuple à lui donc, former un corps qui est l'Église. Et tout au long du chapitre 3, 1 à 3, Paul nous a écrit aussi sur les privilèges et sur les innombrables bénédictions, sur les richesses spirituelles que nous possédons en Jésus-Christ. On a qu'à penser à notre élection, notre prédestination dans son amour, le rachat, Jésus qui nous a rachetés de nos péchés, le pardon de nos péchés, nous a fait de nous des enfants de Dieu, héritiers, scellé par son Saint-Esprit. Et maintenant, on arrive au chapitre 4. Donc, juste pour mentionner ici qu'on passe maintenant, on a parlé de doctrine. Tout le long du chapitre 1 à 3, il y a des doctrines, des théologies, donc chrétiennes, et maintenant, qui sont la base de notre foi. Maintenant, on passe au côté pratique, au côté de la mise en application de ça dans nos vies. Donc, Paul nous dit, « Je vous exhorte donc, moi, prisonnier d'un Seigneur. » Et le mot « donc » ici est important parce qu'il y a une signification. Dans sa définition, ce petit mot-là sert à marquer la conclusion qu'on tire suite à un raisonnement. Paul aurait pu écrire ceci, « En conclusion de ce que je viens de vous écrire, ou à partir de ce que je viens de vous écrire auparavant, voici ce que je vous dis maintenant. » On peut donc dire que ce petit mot, donc, marque justement une transition dans la lettre de Paul. Donc, on passe des enseignements, de ces enseignements théologiques ou doctrinaux, qui sont le fondement de la foi chrétienne, à nos responsabilités comme chrétiens. On passe donc de la prise de conscience de tous les privilèges et des bénédictions que nous jouissons et nous possédons en Christ à notre conduite, à notre marche comme chrétiens. On passe de la connaissance de ce que Dieu est pour nous, de ce que Dieu a fait pour nous, de la connaissance de la richesse de la grâce dont on bénéficie en lui, à la réponse que Dieu s'attend de nous en retour. Dans notre vie, de par nos attitudes de tous les jours. On passe donc de la relation que nous avons maintenant avec Dieu à celle que nous devons aussi avoir avec les uns, avec les autres dans l'Église. dans les chapitres 1 à 3, Paul faisait appel à notre esprit, à notre raisonnement. Dans les chapitres 4, puis le reste, dans les autres semaines qui vont suivre, et dans le reste de cet épître-là, Dieu fait appel à notre volonté. Donc, Paul nous a parlé dans les premiers chapitres donc de la fondation, comme une fondation d'un édifice qu'on pourrait appeler la vie chrétienne. Autrement dit, la base de notre foi, c'est de ça qu'il parlait. Alors qu'à partir du chapitre 4, j'allais jusqu'au chapitre 6, Paul va nous instruire sur la manière de bâtir sur cette fondation-là. Comment vivre de façon pratico-pratique notre vie chrétienne. Donc, on passe de théologie au côté pratique, de mise en application. Il y a cet équilibre qui devrait donc exister, qui est important qu'il existe dans notre vie. Parce que, justement, la vie chrétienne ne s'arrête pas à la connaissance, à notre savoir dans la tête. Ce que nous savons doit se transposer dans notre vie de tous les jours. C'est pourquoi vous remarquerez que dans la deuxième partie de la lettre, le mot-clé, je parle de mot-clé, dans la deuxième partie, vous remarquerez que c'est le mot « marche », notre marche. Alors qu'on pourrait dire que dans le premier chapitre jusqu'au chapitre 3, c'est de nos bénédictions en Jésus-Christ. Par exemple, Éphésiens chapitre 4, verset 1 qu'on a lu tantôt, il est écrit « marcher d'une manière digne de la vocation ». Qui vous a été adressé. Plus loin, au verset 17 du même chapitre, il est écrit, « Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. » Chapitre 5, verset 2, il est écrit, « Marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui vous a aimé. » Chapitre 5, toujours, verset 8, il est écrit, « Marchez comme des enfants de lumière. » Et au verset 15 du chapitre 5 aussi, il est écrit, « Prenez donc garde afin de vous conduire, ou de marcher, avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. » Et commençons au chapitre 4, donc, on passe du privilège qu'on a comme chrétien à la responsabilité que cela nous donne de vivre comme chrétien. Et Paul, lorsqu'il dit « Je vous exhorte donc », c'est, vous remarquerez que dans d'autres endroits, dans d'autres lettres que Paul adresse aux chrétiens, souvent il va employer, il va faire cette transition, là, il va employer ce terme-là « Je vous exhorte donc ». Dans Romains 12, on connaît le passage où Paul aussi nous exhorte. Et c'est comme, on pourrait dire, interpréter ça comme un tendre conseil d'un frère, un encouragement d'un ami, une supplication, une prière. Ici, c'est autrement dit, ce n'est pas la loi qui dit « je vous commande », mais c'est la grâce qui dit « je vous exhorte, je vous supplie, je vous en prie ». Vous savez que c'est la volonté de Dieu, on le voit dans Éphésiens chapitre 1, que notre vie serve justement à célébrer sa gloire. C'est d'ailleurs pour cela qu'il nous a choisis, pour célébrer sa gloire. Et donc, nous ne sommes plus comme au temps de l'Ancien Testament, où Dieu disait à son peuple, Israël, « Si vous m'obéissez, je vous bénirai. » Ou « Si vous m'obéissez, vous vivrez. » Comme chrétien, c'est plutôt « sachant, me connaissant, sachant, vous êtes mes enfants, je suis votre père, je vous aime, sachant combien je vous aime, combien béni vous êtes en Jésus-Christ, je vous demande de m'obéir. Je vous exhorte donc, en toute reconnaissance en son amour et de sa grâce envers vous, je vous en supplie, marchez d'une manière digne de votre appel. » Vous voyez la différence? Notre conduite, notre marche, comme veut nous enseigner Paul dans cette lettre-là, devrait être une marche qui soit digne de l'amour et de la grâce que Dieu a déployé envers nous qui sommes ses enfants. Il y a un vieil évangéliste qui a écrit ceci. « Comment le monde peut connaître Jésus s'il ne voit pas Jésus en nous? » Maintenant, je parle du titre que Paul se donne. On voit que Paul se dit, il dit « Moi, » lorsqu'il s'adresse aux chrétiens d'Éphèse, « Moi, le prisonnier dans le Seigneur. » Il était prisonnier, oui, mais prisonnier dans le Seigneur. Prisonnier à cause de son témoignage, à cause de son appel, justement, qu'il a eu en Jésus-Christ. Et remarquez, ce n'était pas la première fois qu'il avait été emprisonné. Maintenant, s'il avait été, Paul, emprisonné parce qu'il avait agi en dehors de la volonté de Dieu, qu'il avait fait quelque chose de pas correct, si vous voulez, soyez sûr qu'il ne serait pas très, très fier de lui. Même s'il était chrétien, il ne pourrait pas se présenter avec ce titre, prisonnier dans le Seigneur. Mais Paul avait toujours constamment les pensées tournées vers le Seigneur. Et dans ce sens-là, ce que Paul, autrement dit, s'apprête à dire, et à nous dire, comme exhortation et aux chrétiens d'Éphèse, lui déjà, il l'appliquait dans sa vie, même au prix d'être emprisonné. Maintenant, notre responsabilité, Paul dit, je vous exhorte, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Marcher de manière digne. Pour marcher d'une manière digne, c'est important d'avoir une bonne compréhension de ce que ça signifie. Maintenant, le mot digne, en grec, c'est le mot axios, qui parle justement d'équilibre. C'est l'idée de chercher à avoir un poids d'égale valeur de chaque côté, mettons, d'une balance, sur chaque plateau, de chaque côté d'une balance. Puis pour illustrer ça, dans la vie de tous les jours, je prendrai l'exemple, par exemple, d'un juge. Dans notre société, nous attendons à quoi d'un juge? On s'attend que ce juge-là soit juste dans ses jugements, mais aussi qu'il vive une vie juste, droite. On s'attend à ce que sa vie corresponde à la position et à la fonction qu'il occupe, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi qu'un juge comme ça, qui agit justement, est un juge qu'on pourrait dire qui fonctionne ou qui juge d'une manière digne, qui marche d'une manière digne d'un juge dans sa profession. Donc, pour lui, dans cet exemple-là, il y a l'équilibre que la société s'attend dans sa vie entre sa position et sa vie. Maintenant, si on prend le cas d'un autre juge qui se laisserait soudoyer en recevant des pots de vin, ou pour toutes sortes de raisons, est prêt à enfreindre la loi, c'est d'accord avec moi que ça, ce n'est pas un comportement digne d'un juge. Pour nous, chrétiens, bien, marcher d'une manière digne, c'est vivre une vie qui correspond à notre position spirituelle comme chrétiens. Nous sommes chrétiens, nous avons été sauvés par grâce, nous sommes nés de nouveau, nous avons professé être chrétiens, marchons comme des chrétiens. Et plus on approfondit, plus on apprend à connaître Dieu, sa parole, plus nous avons la responsabilité de mettre en application ce que nous connaissons. Dieu ne nous demande pas non plus d'obéir dans l'ignorance. Marcher d'une manière digne, c'est quoi? C'est transposer notre connaissance théorique en pratique. Puis on sait, chacun de nous, on sait, nous savons que combien c'est plus facile de dire que de faire. Comment c'est beaucoup plus plaisant d'apprendre que de le mettre en pratique. Mais remarquez aussi que dans le texte, il ne nous est jamais demandé d'être digne, parce qu'en fait, il n'y a rien en nous de digne. On est tous des pécheurs, tous égaux, sauvés par grâce. On n'a aucun mérite, ayant en nous-mêmes aucune dignité comme telle. Mais il nous a demandé de marcher d'une manière digne. Seul notre Seigneur est digne que nous marchions d'une manière qui lui soit digne. En plus, on est appelé à marcher d'une manière digne dans le but de gagner. On n'est jamais, non, pas du tout. On n'est jamais demandé de marcher d'une manière digne de Dieu dans le but de gagner sa faveur. C'est par la grâce qu'on est sauvé. Christ a payé pour nous. Et le jour où nous avons reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous avons trouvé justement grâce aux yeux de Dieu. Mais nous devons marcher d'une manière digne à cause justement de la grâce dont on a été favorisé en Jésus-Christ. Nous devons avoir une marche qui reflète la présence de Dieu dans nos vies. Et c'est aussi, de par notre marche, une excellente manière de lui dire merci. Puis aussi, l'une des raisons de marcher d'une manière digne de notre appel, c'est l'honneur de Dieu. Quand un chrétien agit d'une manière indigne, qui déplaît à Dieu, Dieu en est déshonoré. Maintenant, notre vocation, parce que dans le texte, Paul nous invite à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Alors, quel est notre appel? Quel est l'appel de Dieu dans nos vies? Paul en a déjà parlé dans les chapitres précédents. Premièrement, l'appel d'être chrétien, de lui appartenir, d'appartenir à Dieu, d'être devenir enfant de Dieu. Dans 1 Corinthiens 1, sans tourner au verset 9, il est écrit « Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. » Et tout au cours de l'histoire, il y a malheureusement plusieurs qui ont restreint cet appel-là, c'est-à-dire qui ont plutôt mis une emphase sur l'appel à être missionnaire, ou être pasteur, ou être évangéliste. En réalité, on est tous, chacun d'entre nous, on est tous appelés. Mais la première, la plus grande appel, c'est d'être en communion avec Dieu. On a été appelés par l'Évangile. Paul le rappelle dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 14. Pierre nous dit que nous avons été appelés afin d'être le peuple de Dieu, passant des ténèbres à la lumière. 1 Pierre 2, 9. On a été appelé à être saint, 1 Pierre 1,15. Appelé à supporter la souffrance injustement même, 1 Pierre 2,21. Appelé non pas à rendre l'injure pour l'injure, mais à bénir, 1 Pierre 3,9. Et Jésus a dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux, Matthieu chapitre 5, verset 16. Et tout ça s'applique pour chacun d'entre nous. C'est ce que nous sommes appelés à faire, à remplir comme responsabilité de chrétien. Nous avons aussi une vocation dont Hébreux chapitre 3, 1 nous informe, une vocation céleste, une sainte vocation, 2 Timothée 1, 9. Ailleurs, Paul nous invite dans Philippiens chapitre 3, verset 14, à courir dans le but de remporter le prix de la vocation céleste que nous avons en Jésus-Christ. Là, Paul nous donne, dans ce chapitre 4, deux responsabilités par rapport à notre vocation comme chrétien. Premièrement, dans le texte qu'on voit ce soir, des versets 1 à 6, nous sommes appelés à marcher dans l'unité, les uns avec les autres. Puis, vous allez voir plus tard, dans les versets 7 à 16, qui vont être revus dans les autres semaines, nous sommes appelés à contribuer à l'édification, justement, à garder cette unité-là de ce corps qui est l'Église. Maintenant, l'appel de marcher dans l'unité. Parce que il écrit, « Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, dit Paul. » Comment marcher dans l'unité? Paul nous parle, vous allez voir, il nous parle de trois qualités ici, ou attitudes de cœur, qui sont nécessaires pour conserver l'unité d'esprit. Puis avant d'aller plus loin, remarquez que Paul ne dit pas vous efforçant de faire l'unité de l'esprit, mais plutôt vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Nous ne sommes pas responsables, autrement dit, de faire l'unité. C'est quelque chose qui est déjà fait. L'unité existe, elle vient de Dieu le Père, qui nous a aimés, qui nous a tant aimés, qui nous a donné son Fils, qu'il a envoyé à la croix pour nous, qui a versé son sang pour nous. C'est aussi l'œuvre, cette unité, l'œuvre du Saint-Esprit qui est en nous, avec qui nous faisons un avec le Père et le Fils. Cette unité-là existe déjà. Mais Paul nous exhorte, il nous encourage à la conserver, à la préserver. Ça veut dire, autrement dit, de ne pas agir de façon contraire à l'esprit qui nous unit. Donc, notre responsabilité, c'est de vivre une vie à l'image de Christ, afin justement de conserver cette unité. Et pour ce faire, Paul nous invite à marcher, donc, dans l'humilité. En toute humilité. C'est assez bien défini ailleurs dans les textes. Paul écrit, entre autres, dans Romains 12, 3, sans tourner, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Ailleurs, dans Philippiens, chapitre 2, verset 3, il dit, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Et justement, tout de suite, dans les versets qui suivent, justement, ce passage de Philippiens-là, on a l'illustration parfaite de l'humilité mise en pratique en la personne même du Seigneur Jésus, qui s'est dépouillé lui-même, s'est humilié lui-même sans réclamer ses droits de Dieu en tant que Dieu. Il a vu à nos intérêts en venant à notre secours, allant même jusqu'à donner sa vie, allant à la mort, à la croix pour nous, se soumettant au Père. Et souvenons-nous que Jésus, dans son sermon sur la montagne, il a commencé par quoi? En bénissant les gens qui reconnaissaient justement leur pauvreté sur le plan spirituel. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. C'est une description, ça, de l'humilité. Reconnaître notre insuffisance, notre pauvreté spirituelle. Aussi, il est écrit que Dieu fait grâce aux humbles, mais résiste aux orgueilleux. Et l'humilité, c'est bien le contraire de l'orgueil. Et l'orgueil a été et demeure toujours une des causes principales de bien des divisions. Maintenir l'unité, ça demande d'avoir de la compréhension, de la compassion vis-à-vis les faiblesses puis les fragilités des autres. Mais il faut faire attention aussi à la fausse humilité. Par exemple, de dire, moi, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça, moi, je suis nul. Si on dirait à cette personne-là, tu as raison, tu es un nul. Tu es la personne la plus inutile sur la terre. Parce que souvent, vous savez, quand on dit ça, on va comme à la pêche, on espère que quelqu'un puisse nous répondre. T'es pas si pire que ça, t'es bon. T'es bon. Ah, il n'y en a pas de meilleur que toi. Et ça, ce n'est pas de l'humilité. C'est une fausse humilité. Faisons attention. Maintenant, nous sommes malheureusement encore bien loin chacun d'entre nous de marcher parfaitement dans l'humilité. C'est normal parce que notre sanctification, c'est un processus. Puis, on est tous situés à divers degrés. Pas d'échelon, là, mais dans notre processus, dans notre marche. À tous, à divers degrés, on est orgueilleux. Il nous arrive encore de se croire bien capable, autosuffisant sur le plan spirituel. Alors qu'en réalité, on est des pécheurs spirituellement pauvres, ayant toujours besoin de notre Sauveur. Et Paul continue en disant, « Marchez en toute humilité et douceur. » Vous savez, je parlais du sermon sur la montagne, Jésus a aussi dit, « Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. » Et là, quand il parle de ça, il parle d'attitude vraiment empreinte de douceur. Vous savez, la société du temps, ou à l'époque de Jésus, elle faisait l'équation suivante. Douceur égale mollesse. Quelqu'un de doux, c'était quelqu'un de mou. Pourtant, Jésus qui a d'ailleurs dit de lui-même, « Je suis doux et humble de cœur. » Ce que je cherche, ce n'était pas un mot. Pas plus que Moïse non plus, dont il est dit qu'il était doux. En réalité, la douceur, c'est la manifestation de la force sous contrôle. Comme, j'ai aimé l'exemple, lorsque j'ai fait cette étude-là, l'animal sauvage qui est dompté. Il n'a pas perdu de sa force, cet animal-là, mais il est sous contrôle. Être doux n'est pas le contraire d'être, n'est pas le fait d'être mou. Être doux, n'est-ce pas que c'est le contraire d'être dur? S'efforcer de conserver l'unité, c'est justement renoncer à la dureté, à la violence, à la colère. C'est laisser Jésus-Christ agir en nous. C'est avoir justement les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est se soumettre. Soumettre notre volonté à la sienne. Aussi, entre nous, la douceur, c'est vraiment une démonstration d'humilité. Agir en douceur, ça inclut aussi de faire attention aussi, surtout à notre langage. Est-ce que ça vous arrive d'être dur dans vos propos? Au hockey, tu sais, ils disent, les coachs disent qu'il y a la dureté du mental. Dans la vie de tous les jours, il se peut qu'il y ait la dureté du langage. Quelqu'un a dit ceci, « La douceur, c'est la rencontre de l'humilité et de la maîtrise de soi. » En tout cas, c'est l'attitude de cœur que Paul nous invite à avoir par la grâce de Dieu. Puis c'est un prérequis qui est nécessaire pour chacun de nous pour dompter notre ego. C'est aussi... Je dirais comme un médecin, c'est le remède de bien des maux. Un chrétien qui marche dans l'humilité et la douceur, c'est une personne qui marche d'une manière digne de son appel. C'est aussi une personne qui marche selon l'esprit, puisqu'on sait que la douceur et la maîtrise de soi découlent du fruit de l'esprit, de Galates chapitre 5, verset 22. En plus, entre nous, comment ne pas s'entendre avec quelqu'un d'humble et doux? Ordinairement, les gens doux sont des gens pacifiques, qui pardonnent facilement. Et Paul continue en disant, « En toute humilité et douceur, avec patience. » Ici, il est question de quelqu'un qui, autrement dit, qui ne cherche pas à se venger. Quelqu'un qui ne combat pas le feu par le feu. Autrement dit, le contraire, c'est d'avoir la mèche courte. C'est chercher tout de suite à se venger. Il faut dire, soit dit en passant, que la revanche, saviez-vous que c'était une vertu qui était prisée par le monde grec du temps, de l'époque de Jésus, hein? On dit œil pour œil, dent pour dent. Et même que la patience était considérée comme un vice. Aristote a écrit que la plus grande vertu des Grecs, c'était le refus de tolérer quelque insulte ou injure que ce soit. Mais ce n'est vraiment pas là la définition de la patience. La patience caractérise plutôt une personne mature. La patience, c'est endurer sans répliquer, en dépit des coups, des injures. Et puis, entre nous, Paul, emprisonné, il savait de quoi il parlait lorsqu'il parlait de patience. Encore là, ce n'est pas dans notre nature d'être patient. C'est un combat. On a besoin d'aller aux pieds du Seigneur, confesser nos péchés, lui demander de nous ramener sur le bon chemin. Mais, il est dit, notre Dieu est patient. Il est patient envers nous. Moi, je suis reconnaissant envers Dieu de ce que Dieu est patient envers moi. Il endure nos désobéissances. Il endure notre côté encore rebelle. Psaume 86, verset 15, s'en tourner. Mais toi, Seigneur, tu es Dieu, un Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et fidélité. Et à plusieurs reprises dans la parole de Dieu, on nous exhorte à marcher avec humilité dans la douceur et la patience. Souvent, tout ça, ça va ensemble. Remarquez Colossiens, sans tourner, Colossiens chapitre 3, verset 12. « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Remarquez le nombre de qualités morales qui sont liées les unes aux autres. Et Paul fait justement le lien dans la suite du verset qu'on examine ce soir, alors qu'il dit « vous supportant les uns les autres avec amour ». Et là, il y a encore l'idée de la patience. Une invitation à s'endurer, à ne pas s'impatienter facilement, ne pas être bourru ou grognon. Puis ici, à l'Assemblée, il y a peut-être une ou deux personnes de bourru ou de grognon. Il n'y a pas plus que ça, tandis qu'ailleurs, il y en a beaucoup plus que ça. Mais c'est un engagement, c'est une responsabilité qu'on a afin de conserver l'unité, d'être patient. En tout cas, pour revenir à ce que je disais, faites-vous-en pas. Il y a plein de gens qui sont capables de vous offrir toutes les opportunités nécessaires pour mettre en pratique toutes ces vertus-là dans vos vies. C'est même inné dans chacun de nous. D'ailleurs, vous savez que dans la famille, c'est un laboratoire, c'est idéal pour ça, même que j'aide régulièrement ma femme dans ce domaine-là parce que pour qu'elle acquiert ces vertus-là. Je fais partie de son processus de sanctification. Mais faire sa part, c'est un sujet de prière pour chacun de nous. Que le Seigneur nous aide à marcher justement d'une manière digne de lui, dans l'humilité, dans la douceur, dans la patience, supportant les uns les autres. Et Paul ajoute l'amour, avec amour. Paul prend bien soin de ne pas oublier ce mot-là, ce verbe-là. Un amour ici qui ne fait pas, en passant, appel à nos émotions, mais plutôt à notre volonté. Pierre dit dans son premier épître, chapitre 4, verset 8, que l'amour couvre une multitude de péchés. Proverbe 10, verset 12, la haine excite les querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. L'amour aussi, même que c'est l'amour qui est le fruit de l'esprit, duquel découlent toutes les autres vertus. Aussi, Paul écrit dans Galates, chapitre 5, verset 14, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Puis on connaît tous le passage dans 1 Corinthiens 13, où Paul nous rappelle bien que sans amour, toute autre chose qu'on peut faire, toute autre vertu qu'on pourrait démontrer, ne sert à rien. Ce n'est pas solide si l'amour n'est pas à la base. Marcher dans l'amour, nous dit Paul, plus loin dans le chapitre 5 d'Éphésiens, justement, verset 2, « Marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même pour nous. » Au chapitre 2, verset 2 et 3, « Marchez en toute humilité et douceur avec patience. » Chapitre 4, on revient à ce passage-là, « Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Vous efforçant. Vous voyez, si on a un travail, conserver l'unité, ça demande de nous de se mettre au travail, de s'engager à faire les efforts nécessaires pour justement conserver l'unité. Et remarquez aussi, dans notre verset, chapitre 4, verset 2 et 3, parce que je me suis trompé, j'ai dit le chapitre 2, il dit que le lien qui garde l'unité, c'est quoi? C'est la paix. Et Paul décrit dans Philippiens, c'est quoi ce lien de la paix? Lorsqu'il dit dans Philippiens 2, versets 1 et 2, « S'il y a quelque union d'esprit, on parle d'unité, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayez un même sentiment, un même amour, une même pensée. » Puis aussi, à l'origine de ce lien, toujours, Paul, dans Colossiens chapitre 3, verset 14, Paul nous décrit qu'à l'origine, l'amour, c'est le lien de la perfection. Maintenant, il y a sept réalités pour terminer comme base de notre unité. Il est dit, en continuant les versets plus loin, au chapitre 4 toujours, au verset 4, il y a un seul corps. Un seul corps que Paul définit avant comme étant l'Église. Qui est ce corps dont la tête, on sait, est Jésus-Christ qui est le chef. Au chapitre 2, verset 16, il écrit, « Il était que par sa mort, son sang, verset à la croix, Christ a voulu créer l'unité entre le Juif et le païen. Il a ainsi créé en lui-même avec les deux un seul homme, dit la Bible, un homme nouveau, en établissant quoi? La paix. Et de les réconcilier l'un à l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Un seul corps. Vous savez, en Christ, il n'y a pas de favoritisme. Dans Éphésiens chapitre 3, verset 6, on voit que Paul aussi avait toujours cette idée-là à l'esprit quand il a écrit ce mystère du corps, l'Église, c'est que les païens sont co-héritiers. Ils forment un même corps, participent à la même promesse en Jésus-Christ. Donc, il y a ce seul corps, une seule Église, celle du Seigneur Jésus. Et ici, il est question de l'Église invisible, c'est-à-dire l'ensemble de tous les croyants, à partir de la première époque de l'Église, aller jusqu'au aujourd'hui. Il ne parle pas d'Église ou d'assemblée en particulier, de dénomination, de race en particulier, parce qu'à ce moment-là, il parlerait de plusieurs corps. Alors, lorsqu'une personne se reconnaît perdue et qu'elle se détourne de ses péchés pour se tourner vers Dieu, en plaçant sa confiance au Seigneur Jésus, en l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, lui qui est mort pour ses péchés, même si cette personne est jeune dans la foi, peu importe d'où elle vient, n'importe quel background qu'elle puisse avoir, même si elle ne connaît pas grand-chose à la parole de Dieu, cette personne, le Saint-Esprit vient habiter en elle et fait d'elle un membre du corps de Christ. Au même titre que toutes les autres, jeunes ou moins jeunes, le chrétien qui fréquente une autre assemblée ou dénomination qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, il est aussi membre de l'Église qu'un chrétien qui fréquente l'assemblée ici, au Cap de la Madeleine. D'ailleurs, en passant, la majorité des chrétiens qui ont séjourné sur la terre, allés jusqu'à présent, n'ont jamais fréquenté l'assemblée chrétienne du Cap de la Madeleine. L'idée, c'est de ne pas s'enorgueillir de qui? Du bâtiment ou de nous comme tel. On n'a qu'à se glorifier que de connaître Christ. Encore aujourd'hui, c'est la même chose. Hein? Ce que Dieu a élu, Dieu les amène par sa grâce à sa connaissance et à la connaissance de son Fils bien-aimé. Peu importe l'endroit, le pays sur la terre, peu importe l'assemblée ou la dénomination ou le pays dans le monde, qu'il soit russe, africain, blanc, rouge, noir, riche, pauvre, grand, petit, n'importe quel tempérament, tous différents, mais unis en Christ. Alors, vous remarquez que, par exemple, que Paul n'a jamais voulu dire que nous devons nous efforcer à garder l'unité au prix de la vérité. C'est important, les doctrines essentielle de la parole de Dieu. Jamais Paul a dit de sacrifier la vérité. Mais il parle aussi d'attitude, de cœur, dans la vie de tous les jours, entre nous, entre chacun de nous. Il faut se rappeler aussi que l'Église, ce n'est pas un bâtiment, ni une dénomination en particulier, mais c'est le corps de Christ. C'est un organisme invisible qui inclut tous les croyants nés de nouveau, de toutes les époques. Dans ce sens-là, il y a un seul corps, une seule Église. Certains vont dire, oui, mais l'Église de Christ, avec toutes ces dénominations-là, est déjà bien divisée. Où est-ce qu'elle est, l'unité? Justement, l'Église, c'est composé de chaque personne qui est régénérée par l'Esprit de Dieu. Toutes les divisions n'ont jamais était l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de l'homme. C'est l'homme qui fait de l'Église une si bien mauvaise image sur cette terre. Maintenant, il y a un seul esprit On peut avoir différentes opinions sur certaines choses non essentielles, mais il n'y a qu'un seul esprit. Puis ici, Paul parle justement du Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. Et tous les membres de l'Église ont cet esprit. C'est du même esprit que nous avons été baptisés pour faire partie du corps de Christ. Souvenons-nous, dans Romains chapitre 8, verset 9, Paul écrit, « Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs, dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie, « Abba, Père », Galates chapitre 4, verset 6. Il y a un seul esprit qui est venu faire sa demeure en nous le jour où nous avons cru au Seigneur Jésus. C'est le même esprit qui habite en chacun de nous. Est-ce que maintenant l'esprit peut communiquer un message spécial à un groupe donné contraire à l'autre groupe? Non. C'est le même esprit. Et nous avons tous cet esprit en nous, chrétiens. Et c'est cet esprit, c'est par cet esprit-là qui nous unit les uns les autres. Alors, qu'est-ce qu'on est invité à faire? Autrement dit, c'est de marcher selon l'esprit. Vous avez été aussi appelés à une seule espérance, dit Paul, par votre vocation. Ça tranche avec autrefois où on était sans espérance, sans Dieu dans le monde. Et comme chrétiens, on a tous les mêmes aspirations. Sur le plan spirituel, puis il y a quelqu'un qui a déjà écrit au sujet des chrétiens, un non-chrétien, il dit, les chrétiens, c'est le camp de ceux qui ont une espérance. Nous, on regarde vers le futur, puis on a cette assurance concernant notre destinée. Peu importe ce qui arrive, on a hâte au retour du Seigneur. On a hâte qu'il revienne. Notre espérance dans les choses célestes, dans les choses invisibles, dans la vie éternelle, dans le ciel, d'être tous ensemble réunis avec lui, un jour, avec Jésus. Il n'y a qu'une seule espérance qui compte vraiment. Et puis nous attendons celle-là, cette bienheureuse espérance dont la Bible dit que la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et notre Sauveur Jésus, Tite, chapitre 2, verset 13. Paul, dans sa lettre aux Colossiens, nous parle de la glorieuse richesse de Dieu qui a bien voulu nous révéler à nous, autrefois, nous qui étions païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Colossiens chapitre 1, verset 27. Il y a un seul Seigneur. C'est d'ailleurs ce que proclamait l'Église primitive au temps des apôtres. Hein? Dans Actes 2, chapitre 36, Dieu a fait Seigneur ce Christ que vous avez crucifié. C'est le Seigneur de gloire, Jésus. Il était prêt à mourir, les chrétiens, du début pour ça. Quand le gouverneur romain, on se souvient, insistait pour qu'il abjure, confesse que c'est César qui était le roi et qui était le Seigneur, ils ont été prêts jusqu'à mourir pour ça, plutôt que de renier leur Seigneur. Parce que pour eux, ce n'était pas simplement une adhérence simple, croyance, c'était leur raison de vivre, c'était leur allégeance. Il était leur Seigneur dans le sens que nous lui appartenons à Dieu. Nous lui appartenons, c'est dans ce sens-là. Nous sommes membres de son corps et c'est lui qui en est le maître, qui a l'autorité. Il n'y en a pas d'autre que lui, en réalité, qui règne. Et puis, il dit que son règne n'aura pas de fin. Merveilleux. On a tous le même Seigneur qui est riche envers tous ceux qui l'invoquent. C'est lui qui est à l'origine de l'Église, c'est lui qui l'a créé, c'est lui qui l'a bâti, c'est lui qui la soutient, c'est lui qui la garde, c'est lui qui en prend soin, c'est lui qui en est le berger. Il n'y a qu'un seul Seigneur. En conséquence, il ne peut y avoir qu'une seule foi. Et ici, il parle des enseignements, justement, des doctrines, ce que nous croyons, la base de notre foi, l'enseignement des apôtres qui est mentionné dans Actes 2, chapitre 43, la foi qui a été transmise au saints une fois pour toutes, qui est mentionnée en Jude, au verset 3. Et on partage ensemble la même expérience de foi. Une foi placée en la personne du Seigneur Jésus. Une foi basée sur la parole de Dieu qui est la vérité. Maintenant, notre témoignage personnel, il diffère, c'est bien entendu. Mais nous avons la même expérience de salut en Jésus-Christ seul. en la foi seule en Jésus-Christ seul. Il y a un seul baptême aussi. Il y a bien des controverses, puis je ne voudrais pas aller trop loin là-dessus. Un seul baptême, est-ce que c'est le baptême d'immersion ou le baptême du Saint-Esprit, ou par aspersion, ou etc. Quoi qu'il en soit, dans l'Église, au début, le baptême par immersion, ce que ça faisait, c'est identifier le croyant en la mort et la résurrection de Christ, faisant un avec lui. C'est un symbole de l'union du croyant avec Christ, une démonstration publique de l'engagement et de l'identification du croyant envers Jésus. Finalement, un seul Dieu est Père de tous, au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Encore là, c'est bien différent de ce que auparavant, ce qui se vivait dans le temps de Jésus, où il y avait un paquet de dieux, ou toutes sortes de dieux. La Bible nous dit qu'il y a un Dieu qui est éternel, Père de tous. Il est le Dieu de tous les hommes. Maintenant, Père de tous, vous entendez? Il y a des religions monothéistes, on en connaît, trois principales. Mais ce qui diffère ici, c'est bien particulier. Notre Dieu et le Père a un Fils, Jésus-Christ, qui l'a donné, qui est venu mourir à la croix pour nous. Et c'est ce Dieu unique qui a envoyé son Fils unique à la croix. C'est ce seul Dieu-là qui est le véritable. Le Dieu qui n'est pas le Père du Seigneur Jésus-Christ, qui n'a pas envoyé son Fils mourir pour nous à la croix par sa grâce, prendre nos péchés, n'est pas le Dieu véritable. Le vrai Dieu a un Fils qui l'a donné. La deuxième personne de la Trinité, qui est égale au Père avec tous ses attributs, qui est aussi le seul chemin, la seule vérité, la seule vraie vie. Et personne ne peut venir au Père que par le Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Il n'y a un seul Dieu et Père. Et tous les véritables enfants de Dieu savent qui est ce seul Dieu. C'est le Père de Jésus-Christ. Et notre Père. Il est au-dessus de tous. Il règne. Il est souverain. Et Paul continue, il dit, parmi tous, parmi nous, c'est lui qui nous unit. Il est parmi nous. Il nous unit dans un même corps. C'est l'auteur de notre salut. C'est lui qui est notre vie. C'est lui qui, par sa grâce, nous donne la vie. Il est à l'origine de tout ce que nous sommes, de toutes les bénédictions que nous avons. C'est ce que Paul nous a entretenu tout le long de la lettre jusqu'à maintenant, jusqu'à ce soir, ce qu'on a vu jusqu'au chapitre 4. Et puis, aujourd'hui encore, il est encore parmi nous. Il agit encore dans son Église, dans notre vie de tous les jours. Peu importe ce qui arrive aussi sur la terre, tous les bouleversements qu'on peut voir à la télévision présentement, là, ce qui est arrivé, les tremblements de terre en Nouvelle-Zélande, ce qui est arrivé présentement, ce qui passe parmi les pays arabes, que ce soit en Égypte, en Libye, etc., il demeure en plein contrôle de tout. Et tous ses desseins s'accomplissent. Dans son temps, lui. Puis moi, cette vérité-là, ça me réconforte. C'est lui qui, ultimement, va continuer à régner. Il a eu le premier mot, il va avoir le dernier mot. Et nous, ce qu'il nous demande, c'est de demeurer en lui, demeurer en moi. Il est présent en chacun de nous. Puis ce qu'il désire, c'est d'accomplir justement sa volonté en chacun de nous. De compléter, il va compléter ce qu'il a commencé, l'œuvre de transformation qu'il a commencé dans notre vie. Il va la compléter pour qu'on soit de plus en plus à l'image de son Fils. Alors, est-ce qu'on laisse œuvrer dans notre vie chacun de nous pour laisser justement former Christ en nous? C'est ce qu'il nous appelle à accomplir par sa grâce. Vous savez, Paul, pour terminer, parce que là, je vous ai pris beaucoup de temps, là, puis Paul, souvent dans ses lettres, commence par dire que la grâce et la paix, qui est le lien, l'unité, vous soient données de la part de Dieu le Père et Seigneur Jésus. Mais c'est ma prière pour chacun d'entre nous, que la grâce de Dieu et la paix de Dieu nous accompagnent chacun dans nos vies de tous les jours. On va terminer par une prière. Père notre Dieu, nous te rendons grâce pour ton Fils bien-aimé, Seigneur Jésus. Lui qui a marché ici-bas, qui prend un corps comme nous, qui s'est humilié, qui s'est rendu obéissant jusqu'à la mort à la croix. Et maintenant, Seigneur, connaissant, te connaissant, parce que tu t'es révélé par ta grâce à nous, en la personne de ton Fils Jésus, connaissant l'amour que tu as pour nous, ta patience envers nous, Seigneur, on veut avoir, que tu places en nous ce désir de te plaire de plus en plus, d'avoir de plus en plus comme les mêmes sentiments qui habitaient, qui sont en ton Fils, le Seigneur Jésus, qui a marché si bas dans l'humilité, qui a marché dans la douceur, dans la patience. Seigneur, mets en nous ce désir de mettre notre épaule à la roue pour conserver l'unité dans ton Église, ici à l'Assemblée du Cap-de-la-Madeleine. Seigneur, on veut que ta volonté s'accomplisse en chacun de nous, que nous demeurions unis, ayant une même foi, une même espérance. Merci pour ta présence. Merci aussi pour toutes les bénédictions que nous jouissons ici-bas et dans les lieux célestes en Jésus. Encore aujourd'hui, nous avons cette espérance qu'un jour, le Seigneur va revenir établir son règne sur cette terre. Et tu vas nous prendre pour être avec toi, pour toujours. Alors, Seigneur, bénis ton Église ici, au Cap-de-la-Madeleine, chacune des personnes ici présentes, chacune des familles. Et nous te prions en Jésus-Christ. Amen. Merci.